J'ai écrit ce texte après avoir lu le livre qui s'appelle Le mystère des crânes de cristal, écrit par Chris Morton et Ceri Louise Thomas, parce qu'il y avait beaucoup de sacrifices humains. Il parlait du sacrifice humain dans le livre, et du coup, c'est pour ça que j'ai écrit ce texte qui s'appelle Matin. Matin. Le jour se lève comme il meurt. Ce jour encore est tranchant comme un fil. L'aube blême appelle le condamné qui vient offrir sa tête à l'étoile palpitant au-dessus. Le condamné, il vient se libérer de ce corps trop lourd. Ce jour encore est tranchant comme un fil. L'étoile dernière palpite là-haut doucement, comme un cœur battant. L'étoile, elle me cligne de l'œil depuis une demi-heure. Et des milliers de jours, et des milliers de vies. Le condamné attend de mourir pour la rejoindre. Et moi, matin, je voudrais ne plus vouloir me rendormir sous ta lumière assassine. Seras-tu heureux un jour de nous voir vivants? En fait, ce texte, il exprime qu'on est encore et toujours condamné à nous croire enchaînés. Et dans ce texte, eh ben, le condamné, il est dans l'impossibilité de vivre l'amour inconditionnel. Et donc, il est presque heureux de mourir pour une étoile.
Rêver un impossible rêve, porter le chagrin des départs, brûler d'une possible fièvre, partir où personne ne part, aimer jusqu'à la déchirure, aimer même trop, même mal, tenter sans force et sans armure d'atteindre l'inaccessible étoile. Telle est ma quête, suivre l'étoile. Peu m'importe mes chances, peu m'importe le temps ou ma désespérance, et puis lutter toujours sans question ni repos, se damner pour l'or d'un mot d'amour. Je ne sais si je serai ce héros, mais mon cœur serait tranquille, et les villes s'éclabousseraient de bleu parce qu'un malheureux brûle encore, bien qu'ayant tout brûlé, brûle encore, même trop, même mal. Pour atteindre à s'en écarteler, pour atteindre l'inaccessible étoile.
Est-ce que tu penses que l'amour inconditionnel peut exister dans cette société et voilà, pour les êtres humains? Donc, est-ce que tu peux me répondre?
Alors, l'amour inconditionnel, c'est-à-dire sans condition, c'est-à-dire un amour totalement voué à quelque chose, Mais ce quelque chose, qu'est-ce que c'est, si c'est une ou plein de choses?
Ben, ça peut être par exemple une fleur, un scarabée, tout ce qui est vivant, l'eau.
Aimer le vivant.
Ouais, déjà.
Oui, je pense qu'on peut aimer le vivant. Après, il y a des vivants qui peuvent être bons et puis des vivants qui peuvent être nocifs aussi. Alors, est-ce qu'on peut tout aimer? Je ne suis pas sûr.
Ouais, donc dans notre société, ben c'est très difficile de vivre cet amour-là, je pense.
D'autant que si nous habitons dans une ville, on est loin de la nature.
Ouais, c'est vrai. Ouais, dans la ville, c'est très difficile d'aimer inconditionnellement, peut-être.
C'est ouais. De l'amour conditionné dans les villes, non?
Oui, c'est plus ou moins conditionné, ouais, effectivement, oui, quand même, très conditionné même. Conditionné par la peur aussi.
Ça, je ne sais pas, là, c'est un autre sujet. Hein, on va mais rester c'est... sur l'amour, non, c'est ça?
Oui, mais bon, la peur conditionne l'amour, donc tu es bien obligé de parler par là, passer par là quelque part, quoi.
Ah oui, ça, je ne sais pas si la peur conditionne l'amour. Je ne crois pas, la peur... je dirais, nous conditionne plutôt dans un enfermement, dans une réclusion ou une protection contre beaucoup de choses.
Ben ouais.
Donc la peur et l'amour, je crois pas que ça soit compatible.
Ben ouais, c'est pour ça, elle nous rend esclaves, la peur. Et quand on est esclave, et ben c'est... Pour moi, c'est quasi impossible de vivre l'amour inconditionnellement. Et je pense que tous les êtres humains, eh ben, ils aspirent à vivre cet amour inconditionnel. Et donc voilà, c'est pour ça que je pense que c'est important de parler de ça. À propos de l'amour inconditionnel, dans les histoires et les contes, pour moi, l'expression de l'amour inconditionnel n'existe pas dans ce monde. Mais... tout être humain aspire quelque part en lui à cet amour. Il se rend vite compte que l'expression de cet amour ne peut pas exister dans notre système sociétal. Pour moi, tous les êtres humains sont habités par un manque, un gouffre insondable. Ce gouffre insondable, c'est l'inexpression de cet amour inconditionnel. Qui devrait être, mais qui n'est pas toujours là. Il existe, par exemple, dans les histoires, comme Don Quichotte. Don Quichotte est un héros qui voudrait pouvoir vivre cet amour inconditionnel. Mais il est qualifié de fou par tous les autres. Et il est en décalage avec tous les autres. Lui aspire à être libre. Et être libre, c'est vivre, c'est pouvoir vivre cet amour inconditionnel. Mais je pense qu'on a oublié ça. On ne sait pas vivre l'état de manque. Dès qu'on a faim, et ben on comble le manque. Et on ressent vraiment ce manque. Et en fait, ce manque, et ben c'est... c'est l'inexpression de cet amour. Et ben, alors, si j'ai faim, mais que je ne comble pas le vide, que je vais au-delà, en ouvrant les yeux, en acceptant de me nourrir de l'instant, c'est-à-dire en acceptant de prendre le temps de voir et de sentir. Pourquoi ai-je faim tout le temps? Parce que je fuis. Et je fuis sans cesse, parce qu'on m'a dit qu'il fallait courir pour gagner sa croûte, courir, et courir encore, et toujours. Et j'y ai cru. À cause de ça, je ne sais plus prendre mon temps. À cause de ça, je ne sais plus ce qui est bon pour moi. Je ne sais même plus qu'est-ce qui me nourrirait bien, et qu'est-ce qui nourrirait bien mon corps. Si j'accepte ce manque, et ben j'accepte aussi mon incapacité d'aimer inconditionnellement et sans être esclave. Parce que en fait, c'est un peu une impossibilité, une incapacité. Et en acceptant cette incapacité, à ce moment-là, nous devenons vraiment là quelque part, dans le sens où nous faisons partie à ce moment-là de cette équation impossible. En fait, on essaye de résoudre sans cesse une équation qui est comment vivre l'amour inconditionnel. Sauf qu'on l'a, on a oublié, on l'a oublié. Donc, en fait, si nous redonnons de l'attention à cette équation impossible, je donne mon attention au fait que nous, êtres humains, avons souffert durant des centaines de vies à cause de cette incapacité d'aimer inconditionnellement et sans être esclave. Si j'accepte cet état de fait, je peux commencer à y voir plus clair et je peux mieux ouvrir mon cœur. Ainsi, la sensation de vide, ce manque, disparaît dans cette acceptation. Je commence alors à résoudre, à peut-être arriver à résoudre cette impossible équation. Parce que j'arrive à y voir plus clair et j'arrive mieux à choisir, par exemple, ce que je vais manger à midi, ou quel film je veux voir, ou même déterminer pourquoi j'ai mal à tel ou tel endroit de mon corps. Je peux commencer à devenir l'explorateur de mon propre corps et de la terre, cette princesse assassinée, et l'explorateur de mes émotions. Et pour moi, ce n'est pas que l'éducation judéo-chrétienne, tout ça, c'est des mots que je comprends pas, mais bon, ce que tout le monde dit. Donc je les reprends. Donc c'est pas que cette éducation-là qui est la cause de tout, de ce manque, de ce gouffre. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont la cause de ce manque. Et voilà. Et voilà. Il y a aussi dans Alice au pays des merveilles aussi, et ben c'est un peu pareil. Au début de l'histoire, Alice, elle est en train d'apprendre une leçon d'histoire, enfin. Et en fait, elle en a tellement rien à faire de cette leçon d'histoire qu'elle s'endort. En fait, pour moi, ça exprime vraiment très clairement le décalage qu'il y a entre nos aspirations véritables, parce qu'Alice, elle est enfant, donc elle aspire à être vraiment là, à être vivante. Et en fait, au lieu de vivre ses aspirations véritables, eh ben, on lui récite une leçon d'histoire qui est très emmerdante, enfin, pardon, qui est très embêtante et qui parle de vieux, enfin, plein de choses qui sont vieilles et qui sont inutiles, quoi, en fait. Qui pour capter son attention, et sauf que ça marche pas sur elle en fait, son attention elle est pas captée, elle s'endort et elle part au pays de là où elle aspire vraiment à être quoi en fait. Donc en fait elle s'endort et là et ben elle visite tout ça, tout ce décalage qu'il y a entre le monde qu'on appelle réel, c'est-à-dire ce système de cette société. Elle explore le décalage qu'il y a entre ses aspirations et notre système sociétal, quoi. Et voilà, et on voit qu'il y a un grand, grand décalage entre nos aspirations profondes dans ce conte, dans Alice au pays des merveilles. On voit clairement ce décalage, quoi, pour moi. Et voilà, et cette équation, elle revient très souvent. Ce problème revient très souvent. À propos des croyances et des peurs. Donc, je vais ici tenter d'expliquer comment il m'est difficile de discuter parfois avec quelqu'un d'athée. Un athée pense ne croire en rien. En vérité, il est plein de croyances. Et il juge que moi, j'ai plus de croyances que lui, alors que nous avons juste un point de vue et des croyances différentes. Et pour lui, lui seul est dans la raison. Puisque par définition, les athées sont contre toute croyance, ils ne peuvent pas se rendre compte qu'ils ont eux aussi des croyances. Par exemple, quand ils ont peur qu'on leur vole leur terre, ou peur de l'étranger, ou peur d'une couleur de peau autre que la leur. À cause de cette différence, ils pensent que l'autre est mauvais, l'autre va leur causer du tort, l'autre est inférieur. Et ceci est une croyance. Les athées ont donc autant de croyances que les croyants, ou que n'importe qui. Mais parce qu'ils se disent athées, ils pensent ne pas en avoir. En ça, ils sont dans le déni, en ça, ils se mentent à eux-mêmes. En ça, rien ne change. Parce qu'ils sont enfermés dans leur monde, ils ne savent plus participer à un simple échange d'idées. Parce qu'ils n'acceptent pas leurs propres croyances. Ils sont toujours dans le jugement. Et
d'un grand terrain de nulle part. Avec de belles poignées d'argent. La lunette d'un microscope. Et tous ces petits êtres qui courent. Car chacun va qu'à son destin. Petits ou grands. Comme durant les siècles égyptiens. Péniblement. Apporter mille fois son poids sur lui. Sous la chaleur et dans le vent. Dans le soleil ou dans la nuit. Voyez-vous ces êtres vivants. Voyez-vous ces êtres vivants. Voyez-vous ces êtres vivants. Quelqu'un a inventé ce jeu. Terrible, cruel, captivant. Les maisons, les lacs, les continents. Comme un Lego avec du vent. La faiblesse des tout-puissants. Comme un Lego avec du sang. La force décuplée des perdants. Comme un Lego avec des dents. Comme un Lego avec des mains. Comme un Lego. Voyez-vous tous ces humains danser ensemble à se donner la main, s'embrasser dans le noir à cheveux blancs. à ne pas voir demain comme ils seront. Car si la terre est ronde et qu'il s'agrippe au-delà, c'est le vide. Assis devant le restant d'une portion de frites, noir sidéral et quelques plats d'amis. Les capitales sont toutes les mêmes devenues. Nos facettes d'un même miroir. Vêtu d'acier, vêtu de noir. Comme un Lego, mais sans mémoire. Comme un Lego, mais sans mémoire. Comme un Lego, mais sans mémoire. Aux facettes d'un même miroir, vêtu d'acier, vêtu de noir. Comme un Lego, mais sans mémoire. Comme un Lego, mais sans mémoire. Comme un Lego, mais sans mémoire. Pourquoi ne me réponds-tu jamais? Sous un manguier de plus de 1000 pages, à te balancer dans cette cage, à voir le monde de si haut, comme un damier, comme un Lego. Comme un imputrescible radeau. Comme un insecte, mais sur le dos. Comme un insecte sur le dos. Comme un insecte sur le dos. C'est un grand terrain de nulle part. Avec de belles poignées d'argent. La lunette d'un microscope. On regarde, on regarde, on regarde dedans. On voit de toutes petites choses qui luisent. Ce sont des gens dans des chemises. Comme durant ces siècles de la longue nuit. Dans le silence ou dans le bruit. Dans le silence ou dans le bruit. Dans le silence ou dans le bruit.
Donc maintenant, je vais lire un passage du livre La maîtrise de l'amour. D'habitude, les humains entament une relation comme des chasseurs. Ils cherchent ce dont ils pensent avoir besoin, espérant le trouver chez autrui. Puis ils découvrent que ce n'est pas le cas. Lorsqu'on démarre une relation sans avoir ce besoin, elle est donc tout à fait différente. Comment chasse-t-on à l'intérieur de soi? Pour capturer l'amour qui est en vous, vous devez capituler en tant que chasseur et en tant que proie. Dans votre propre esprit, il y a le chasseur ainsi que la proie. Qui est le chasseur et qui est la proie? Chez les gens ordinaires, le chasseur est le parasite. Il sait tout ce qui vous concerne et ce qu'il veut. Ce sont les émotions provenant de la peur. Le parasite est un mangeur d'ordures. Il aime la peur et les drames. Il aime la colère, la jalousie et l'envie. Il aime toutes les émotions qui vous font souffrir. Le parasite cherche à être quitte et il veut tout contrôler. Les mauvais traitements que vous vous infligez sous la forme du parasite représentent une chasse perpétuelle. 24 heures sur 24, le parasite ne vous lâche pas. Vous devenez donc sa proie, une proie très facile. Le parasite est celui qui abuse de vous. Pire qu'un chasseur, c'est un prédateur qui vous dévore vivant. La proie, le corps émotionnel, et cette part de vous-même qui souffre et souffre encore. C'est celle qui cherche la rédemption. Dans la mythologie grecque, on trouve aussi l'histoire de Prométhée enchaîné à un rocher. Pendant la journée, un aigle vient et dévore ses entrailles. Puis, durant la nuit, Prométhée guérit. Mais chaque jour, l'aigle revient lui dévorer les entrailles. Qu'est-ce que cela signifie? Lorsque Prométhée est éveillé, il a un corps physique et un corps émotionnel. L'aigle représente le parasite qui dévore son ventre. Pendant la nuit, il n'a pas de corps émotionnel et il se régénère. Il renaît chaque matin pour servir à nouveau de nourriture à l'aigle, jusqu'à ce qu'Hercule vienne le délivrer. Hercule est semblable au Christ, à Bouddha ou à Moïse, qui rompt les chaînes de la souffrance et qui vous donne votre liberté. Pour devenir chasseur de vous-même, vous devez commencer par chasser la moindre de vos réactions. Il vous faudra changer une habitude après l'autre. C'est une guerre destinée à vous libérer du rêve qui contrôle votre vie. Une guerre entre vous et le prédateur, la vérité se tenant au milieu. Dans toutes les traditions d'Amérique, du Canada à l'Argentine, nous nous nommons guerriers. Parce qu'un guerrier est un chasseur qui se chasse lui-même. Il s'agit d'une guerre gigantesque, car l'adversaire est le parasite. Être un guerrier ne signifie pas que vous allez gagner cette guerre, mais au moins, vous vous rebellez et vous n'acceptez plus d'être dévoré vivant par le parasite. Devenir chasseur est donc la première étape.
Et pour toi, c'est quoi un parasite?
Ah oui. Ouais, j'ai pas expliqué ce que c'était que le parasite dans le livre là de la maîtrise de l'amour. En fait, le parasite c'est ce qui nous contrôle malgré nous-mêmes. En fait, on est la proie de nos émotions. On est la proie, par exemple, quand on est jaloux et tout ça, et on devient une proie et on distille du poison. En fait, le parasite, c'est ça, c'est le fait de se laisser contrôler par des... On nous a appris qu'est-ce qui était bien et qu'est-ce qui était mal, et on y a cru. On a donné notre accord à ce rêve, le rêve des hommes pour la planète, c'est-à-dire qu'on a donné notre accord et on s'est soumis. Et à cause de ça, à cause de cette soumission, et ben on est devenus des proies, et des proies pour nous-mêmes. On est nous-mêmes la proie de nous-mêmes. Le parasite, c'est ça, en fait. C'est ce qui se nourrit de la peur.
C'est le religieux.
Et la peur, cette société, elle cultive. En fait, il y a les religions, elles peuvent cultiver la peur, mais il y a plein d'autres choses qui cultivent la peur. Les informations à la télé, elles cultivent la peur. Et il y a beaucoup de choses qui cultivent la peur. Et en fait, tant que la peur, elle vit en nous, et ben le parasite, plus on a peur, plus le parasite, comme il est écrit dans le livre, il appelle ça le parasite, lui, et ben plus le parasite, il est fort, quoi. Et plus il nous fait du mal. Et plus on a peur, plus le parasite, il reste dans nous. Et moins on arrive à se battre contre ça. En fait, parce que la peur, elle nous manipule, on se fait manipuler par la peur. On se coupe de notre senti, on se coupe de notre sentir par à cause de la peur, et on accuse en plus.
L'excès de peur, ça amène la panique.
Ben ouais, mais justement, pour pas être dans la panique, et ben on va quand même rester dans la peur, et on va se on... Sans comprendre qu'on est quand même manipulé, en fait. Et on va accuser plein de choses, quoi. On va dire, par exemple, les religions, on va les accuser, on va dire, ouais, mais c'est à cause des religions qu'on a peur et tout ça. Mais en fait, même s'il y a plus de religion et tout ça, il y a quand même. Le rêve des hommes pour la planète, il est quand même là, quoi. Et il y a quand même des croyances, plein plein de croyances erronées, parce qu'on se coupe de nous, de soi-même, on se coupe de nous-mêmes. On n'est plus à l'écoute, on n'est plus attentif. Toujours pareil. Et voilà. Et on reste dans la peur. On se laisse manipuler par la peur. Voilà, c'est un peu ce que Don Miguel Ruiz, il explique dans La maîtrise de l'amour. Pour moi, ça sert à rien de diaboliser les images. Par exemple, de diaboliser, de dire Jésus sur sa croix, et ben c'est à cause de lui qu'on est dans... Parce que lui, à cause de ça, et ben il y a les religions qui sont venues à cause de ça. Il y a eu la peur. Mais pour moi, ça sert à rien de faire ça parce que de diaboliser telle ou telle image et tout ça, parce que même s'il n'y a pas les courants religieux, il y a de toute façon, il y aura autre chose qui va se servir de la peur. Il y aura la politique, il y aura. Donc en fait, c'est à une échelle. Pour moi, c'est à l'échelle cellulaire, quoi. C'est en nous-mêmes qu'on doit guérir. On doit réapprendre tout, réapprendre à respirer, réapprendre à avoir faim. Par exemple, avoir faim, ben, c'est pas grave d'avoir faim, quoi. On n'a pas besoin de combler tout le temps le manque. On peut essayer d'être ouvert, quoi, au monde, même si c'est pas possible, et ben, faudra que ça devienne possible. On peut être attentif. Donc pour moi, c'est en étant attentif qu'on va se libérer, ben, du parasite, qu'on va se libérer de la peur, finalement.